Les brewpubs offrent un modèle économique intéressant pour la commercialisation de ces bières. Lorsque l'on est brasserie, brasseur, les brewpubs, ce sont ces établissements dans lesquels on peut consommer la bière brassée sur place. Un concept qui répond aux tendances actuelles de circuit court. La bière est en effet servie en direct du producteur au consommateur sans intermédiaire. En France, le projet Amertume recense aujourd'hui 166 brewpubs en activité, soit près de 7% des unités de production. Bonjour Emmanuel Gillard.
Bonjour Birectu.
Tu es le pilote du projet Amertume. 166 brewpubs en activité en 2023. C'est une tendance qui progresse.
Qui progresse, et on pourrait en rajouter une bonne vingtaine qui sont dans les tuyaux sur le point d'ouvrir. J'en ai rencontré d'ailleurs deux ce matin sur ce salon.
Le concept du brewpub, donc, hein, je le disais en introduction, c'est on brasse sur place et on fait l'économie du conditionnement, on fait l'économie de la distribution, on vend sa bière directement au bar et donc forcément un prix de revient qui est bien supérieur à celui que, du circuit habituel. Vers les distributeurs.
Oui, en fait, le prix de revient est bien inférieur, mais c'est surtout la marge qui est plus, oui. Plus intéressante. Il n'y a pas d'intermédiaire, comme tu le disais, il n'y a pas de conditionnement derrière. On tire le plus souvent directement du tank de Garte en isobarométrique. Parfois, il passe aussi par des fûts pour des questions de facilité. Et donc, c'est vrai que ça fait partie des avantages, mais il n'y a pas que ça. Comme avantage quand tu es patron de brewpub,
t'as également... Quels sont les autres avantages?
Déjà, au terme d'investissement, on va dire qu'il n'y a pas de chaîne d'embouteillage, pas de chaîne de conditionnement, pas d'intermédiaire, on en a parlé. Quelque part, il n'y a pas besoin de faire une grosse publicité parce que, et là c'est très important, c'est le choix de l'endroit où on se positionne dans le centre-ville, vu que c'est essentiellement un concept urbain qui s'adresse aux citadins. Finalement, cet endroit est excessivement important et portera lui-même l'image et le marketing de l'entreprise.
Donc, oui, parce qu'on sait ce qu'on va trouver.
On sait ce qu'on va y trouver, de la bière qui parfois, d'ailleurs, n'est pas le seul, et même souvent, est parfois un produit d'appel dans certains cas, vu qu'à côté de ça, il va y avoir une offre beaucoup plus complète et complexe, parce que tout le monde n'aime pas nécessairement la bière, tout le monde n'a pas nécessairement envie de boire de l'alcool, on peut venir avec des enfants, et puis il peut être intéressant également d'avoir une offre qui est tournée vers la restauration, ce qui est souvent le cas, et pour des chaînes par exemple comme les Trois Brasseurs qui ont un calendrier d'ouverture assez impressionnant sur les années 2023-2024 en termes de brewpub.
Le brewpub, ça ne date pas d'hier, c'est répandu un petit peu partout dans le monde, mais le modèle que l'on cite souvent quand on parle de brewpub, c'est celui du Canada.
Oui, c'est le Canada, et eux ils écrivent ça à leur brew, B-R-O. OUE-PUP, parce qu'ils aiment bien franciser les noms. Ils appellent ça également les bistro-brasseries. Mais en France, c'est quand même assez vieux, vu que le premier date, et existe toujours d'ailleurs, c'est en 1986, quand tu sors de la gare de Lille-Flandre, et sur ta gauche, tu as le premier Trois Brasseurs de France qui est toujours opérationnel.
Et c'était le premier brewpub en France?
À ma connaissance, c'était le premier. Peu de temps après, il y en a eu un qui a ouvert sur Lyon, un anglais qui l'a ouvert. Je n'ai plus le nom, mais je le retrouverai. Mais oui, au début, il y en avait quand même très, très, très peu qui faisaient cela.
Quand on ouvre un brewpub, ça n'empêche pas de conditionner quand même sa bière pour la distribuer ailleurs.
Alors, la définition du brewpub, c'est on vend la quasi-totalité sur place.
Ah oui, la quasi-totalité.
Ça, c'est la définition. Parfois, j'entends aussi parler de taproom. La taproom, c'est encore autre chose. Là, c'est finalement un lieu où on vend exclusivement les marques d'une brasserie qui, par exemple, brasse en périphérie d'une ville et a envie d'avoir son image, sa représentation sur place. Et donc, en centre-ville, va ouvrir sa taproom. Ça n'empêche pas, par contre, qu'il y ait de la vente à emporter, et en particulier sous forme de crawler, c'est-à-dire en gros les bouteilles que tu remplis sur place, ou maintenant beaucoup plus souvent de crawler, c'est-à-dire les canettes avec lesquelles tu repars, c'est-à-dire qu'on va sertir la canette devant toi. Mais l'objectif, quand même, c'est de brasser et de consommer sur place.
C'est une tendance qui se développe, qui va vers le haut.
Oui, mais c'est aussi quelque chose qui plaît beaucoup aux consommateurs, parce que là, on a parlé de l'aspect brasseur. On voit qu'il s'y retrouve, mais le consommateur, pour lui, c'est génial, parce qu'il a une brasserie juste à côté de chez lui, dans sa ville. Et le brasseur, il peut le rencontrer. Donc ça favorise les échanges, échanges qui d'ailleurs sont intéressants pour le brasseur lui-même, vu que ça lui permet d'avoir un retour sur ses recettes dans la foulée. C'est des brassins de petite quantité, donc on a la possibilité de tester, de faire de l'éphémère. Et finalement, l'éphémère, la nouveauté, c'est quelque chose qui fidélise la clientèle aussi. Et puis, je l'ai déjà dit, il y a une offre complémentaire, on peut se restaurer sur place, il y a différents concepts de brewpub derrière, mais le consommateur s'y retrouve aussi, également, parce qu'il va avoir une bière d'une fraîcheur qui, normalement, est irréprochable.
Oui, parce que forcément, la bière n'a pas voyagé, n'a pas transité par des entrepôts de stockage. Et parfois, je pense par exemple à la Roue Libre, qui est un brewpub qui a ouvert il y a pas très longtemps, 3 ans peut-être, à Strasbourg, où la bière passe directement des fermenteurs aux tanks de service qui, eux, sont derrière une cloison dans une chambre froide. On ne peut pas faire de bière plus fraîche que celle-ci, quoi.
Oui, parfois l'inconvénient d'ailleurs dans les brewpubs, c'est qu'elle est un peu trop fraîche, en ce sens qu'ils n'ont pas laissé le temps de garde nécessaire, vu qu'il y a une plus grosse demande, ils fonctionnent finalement en flux tendu. Ils ont des fermenteurs, ils ont une certaine capacité de fermentation, et donc ils sont obligés de les libérer au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'en été, quand il y a des pics de personnes, parfois les bières ne sont pas encore totalement finies. C'est peut-être le seul inconvénient, les bières trop fraîches.
Mais en tout cas, un large choix. Et puis comme tu le disais, étant donné que ce sont souvent des petites unités de production, donc des petits brassins et un turnover plus récurrent dans l'offre proposée au bar.
Mais le brasseur va pouvoir se faire plaisir aussi, parce qu'il va pouvoir prendre des risques. Le seul risque qu'il aura, c'est que ça va lui prendre 2 fois plus de temps pour vendre son brassin. Mais au final, il partira quand même. Donc ça lui permet effectivement d'exprimer sa créativité. Ce n'est pas comme un brasseur qui va sortir un batch de plusieurs centaines de litres en se disant « Bon, il faut vraiment que je les vende, ou sinon les bouteilles vont me rester sur les mains. » Là, on sait qu'il va le faire.
On a parlé de vente directe, qui est quand même un levier extrêmement important pour les brasseries, parce que c'est sur la vente directe qu'elles vont réaliser leurs meilleures marges. Pour avoir visité quand même quelques brasseries ces dernières années, j'ai vu beaucoup de brasseries qui s'installaient parfois dans des locaux un peu industriels, au fond de zones inatteignables, sans voiture, ou voilà. Et aujourd'hui, elles arrivent, elles sont à l'étroit dans leur surface de travail et envisagent de déménager. Et aujourd'hui, ces brasseurs-là, quand ils vont visiter de nouveaux locaux, la première chose qu'ils regardent, c'est où est-ce qu'on va installer le bar.
C'est vrai que la brasserie est un lieu industriel initialement, et que l'industrie, ça ne s'ouvre pas au public, surtout quand c'est de l'alimentaire. Et maintenant, c'est justement tout l'inverse. On veut montrer le produit, sa conception, et puis les hommes et les femmes qui sont derrière. Et c'est vrai que quand tu choisis un emplacement de brasserie, tu te poses en effet la question du parking, de son ouverture tout simplement vers l'extérieur, voire la capacité à t'inscrire dans la région dans lequel tu es, en contactant l'office du tourisme, en voyant s'il y a déjà un moyen de se faire référencer. Derrière, c'est des choses qui ne coûtent rien et qui sont assez intéressantes pour les brasseurs.
Oui, et puis il y a un engouement général autour de la brasserie et de la fabrication de la bière. Aujourd'hui, c'est vrai que très facilement, on propose dans les offices de tourisme des visites de brasserie, alors qu'autrefois, ça n'existait pas, peut-être parce qu'il y avait moins de brasseries aussi. Hein.
Oui, mais il faut passer d'une offre qui soit juste une offre décousue où tu vas visiter une brasserie, point, à une expérience plus large, où, et c'est ce qu'ils font par exemple dans les Hauts-de-France, où ils ont un label qui a été créé récemment pour le tourisme, et là c'est toute la filière qu'ils mettent en avant. C'est-à-dire que tu vas pouvoir aller visiter des houblonnières, tu vas pouvoir aller voir des champs d'orge, tu vas pouvoir visiter des anciennes brasseries qui parfois sont des monuments historiques qui sont excessivement intéressants. Donc la bière, ce n'est pas que la brasserie, mais ça s'inscrit dans un ensemble.
Alors la vraie question, c'est est-ce qu'il y a un public pour ça ?
Bah écoute, visiblement oui, vu qu'on va peut-être avoir, ça fait des années qu'on en entend parler, mais une cité de la bière qui va poindre le bout de son nez dans les Hauts-de-France. Je pense que c'est incessamment sous peu que les deux derniers, voilà, les deux derniers candidats vont se départager. Là aussi, on voit d'ailleurs que ce n'est pas rien qu'un lieu qu'ils veulent mettre en avant. Le lieu sera là, bien entendu, central, mais ce sera toute la région qui gravite autour, et ça c'est important. Le tourisme brassicole est quelque chose, moi étant belge, j'étais toujours épaté dans les festivals quand je me suis intéressé à la bière, de voir que dans les années 90, tu m'excuseras, il y avait plus d'étrangers que de Belges. Parce que bon, finalement, le Belge, il ne se rendait pas compte, la bière, il est né dedans, donc pour lui, c'est un petit peu normal. Et il y a énormément d'entreprises qui font du tourisme brassicole en Belgique avec une offre complète d'hébergement, la nourriture, se loger, se nourrir, visiter, c'est-à-dire voir aussi les choses sympathiques, les villages, les villes des alentours. Et je pense qu'il y a vraiment des choses à faire, et on a d'ailleurs une agence touristique qui a démarré dans le Nord, qui s'est répandue un peu partout en France et même en Belgique maintenant, qui s'appelle l'Échappée Bière, qui
propose ce genre expérience de découverte de la brasserie, parce que c'est une expérience.
C'est une expérience, et oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est que la bière, qui considèrent encore par exemple que le houblon en est l'ingrédient principal en poids. Et de la même manière, ça permet aussi... vu que c'est souvent des petites brasseries, de voir l'homme qu'il y a derrière. Et les seules images qu'on en voyait dans le passé, c'était des grosses entreprises avec finalement des cuves inox cylindres coniques de plusieurs dizaines de mètres de haut, et c'est pas très sexy, quoi. Donc voilà.
Merci Emmanuel Gillard, créateur du projet Amertume, qui est l'un des observateurs les plus pertinents sur la filière brassicole en France, avec des mises à jour très pertinentes et récurrentes pour se tenir informé sur l'actualité et la vitalité de la brasserie française. Merci.
Et merci Olivier pour m'avoir accordé ce temps de parole.